France Inter.
Ce soir, seconde et dernière partie de notre rencontre avec une artiste rare, comme je vous le disais hier, qui est venue se confier à nous à propos d'une sorte de renaissance qu'elle a vécue après une longue période de doute, période qui a abouti à quelque chose de neuf qu'on n'avait pas encore entendu d'elle. Auguste, la voix de PJ Harvey accompagnée par celle d'un homme, un comédien ami qui vient fredonner à ses côtés le titre d'une célèbre ballade d'Elvis Presley, Love Me Tender. Elvis qui flotte comme une étrange présence dans ce nouvel album, présence fantasmagorique, figure à la fois guerrière et christique, née d'un rêve de petite fille, une petite fille vivant à une époque indéterminée dans un pays imaginaire que la musicienne décrit dans un long poème fantastique Orlam qu'elle a publié l'année dernière, agrémenté de ses propres dessins. C'est dans ce récit au langage à la fois archaïque, écrit en partie dans un ancien dialecte rural, mais aussi dans une langue inventée comme futuriste, que PJ Harvey, je vous en ai parlé dans l'émission d'hier, a puisé la matière de son surprenant nouvel album intitulé Eye Inside the Old Year Dying, dont elle est venue nous parler en nous rendant visite dans ce studio, voici une quinzaine de jours. Je vous propose d'écouter ce soir la seconde partie de cet entretien, entrecoupé de larges extraits de ce nouvel album qui n'est pas encore paru, il ne sortira que le 7 juillet prochain, donc c'est une avant-première pour France Inter, c'est rare et on a vraiment de la chance. Dans la première partie de cet entretien, Polly Harvey, a distingué de ce personnage de PJ Harvey, qui est un peu comme sa projection théâtrale, nous a parlé d'une longue période de doute, plutôt d'absence de désir, d'envie par rapport à sa propre musique, qui l'a conduite à entreprendre d'autres travaux musicaux, notamment pour le théâtre et la télévision. Elle nous en a parlé dans l'émission d'hier. J'avais appris, avant de l'interroger, que chez elle, au piano, elle a passé des soirées à chanter des chansons des autres, des classiques de Nina Simone, entre autres, sans but particulier, parce qu'elle n'arrivait à faire rien d'autre. Et que brusquement, sans qu'elle s'y attende vraiment, l'envie lui est revenue de se mettre à sa propre musique. Et c'est sorti en 3 semaines. Toute une série de nouvelles chansons. Comment l'explique-t-elle ? Comment est-ce arrivé ?
It really was...
Comme tu l'as dit, je jouais les chansons des autres. Je ne me rendais pas compte que j'essayais finalement de me guérir, de retrouver mon amour de la musique. À l'époque,
tu l'avais complètement perdu.
J'en avais le sentiment et ça me brisait le cœur parce que la musique, c'est l'amour de ma vie. J'étais tellement perdu, épuisé. Je ne savais pas si j'aimais encore la musique.
Tu m'as encore en écouté ?
Pas vraiment en écouté, non. J'écoutais pas beaucoup de musique. Mais je sais que j'ai toujours beaucoup aimé apprendre. Et là, j'essayais toute seule de devenir une meilleure pianiste, de devenir une meilleure guitariste. Chaque jour, j'en faisais 10 minutes, c'est tout. Parce que j'étais épuisé. J'aimais plus la musique. Juste 10 minutes pour m'entretenir. Je faisais des gammes, je répétais mes accords. Et j'ai fait pas mal de progrès. Je me suis dit, si j'ai perdu l'amour de la musique, de ma musique, pourquoi ne pas jouer tout simplement de la musique que j'aime, je le sais, de la musique que j'appellerais de la nourriture pour l'âme. Ce serait des chansons de Nina Simone, Bob Dylan, ou de ces vieux grands classiques comme It's a Wonderful World ou Danny Boy. Tu sais, des chansons traditionnelles magnifiques. Je jouais des cantiques anglais qui m'ont toujours ému. Et oui, je les chantais.
And what happened was,
je me suis rendu compte que c'est l'amour de ma vie. Quand je jouais ces chansons, je me sentais en paix. Je ressentais une plénitude. Je savais alors que c'est ça, mon métier. Rien d'autre ne me satisfait autant.
Pardon de t'interrompre, mais est-ce que l'idée de faire un album de reprise t'a traversé l'esprit à un moment donné ?
J'ai jamais, jamais voulu faire ça.
Même pas cette période ?
Non, même pas à l'époque. D'abord, je me sens incapable de faire mieux que l'original.
Tu peux les transformer.
Mais à quoi bon, puisque c'est parfait.
Et Highway 61 Revisited de Bob Dylan, tu l'as reprise ?
Oui, c'est vrai, mais je trouve que la version de Dylan est mieux. Et puis, j'ai trop envie de faire des choses nouvelles. J'aime ça. Ça m'intéresse de découvrir, de trouver un truc que j'ai jamais entendu. Donc oui, cette chanson, elle existe. Il n'y en a pas de meilleure, mais je vais en composer une autre.
C'était une période de transition, en fait.
L'important, c'est que ça m'a montré que la musique est l'amour de ma vie.
Alors, quel est le processus qui a déclenché la renaissance de ce désir de retourner à ta propre musique ? Ça a pris 3 semaines, après des mois et des mois, et tu étais comme paralysé, tu n'arrivais pas à le faire. Qu'est-ce qui s'est passé au juste ?
Il s'est passé plusieurs choses. D'abord, j'étais dans cette période de jouer des chansons de Nina Simone, Kate Bush, Bob Dylan. J'adorais ça. Les mélodies sont magnifiques. Et puis, je faisais mes exercices de piano, de guitare, et j'étais d'humeur plus légère. J'avais plein de mots, de textes dans toute la maison, parce que je travaillais sur Orlam. J'avais un des poèmes ici, à droite de ma partition, un autre par là, sur le piano. Et je faisais mes exercices et je me disais, et si je les chantais ? J'essayais, et oui, ça se chantait bien. Donc il y avait ça aussi. Et puis, de nouveau, je n'avais pas d'objectif en vue. Je ne me disais pas, je vais faire un album à cette époque. Je prenais plaisir à chanter de nouveau. Et j'avais besoin de mots pour les chanter. Aussi, la liberté découverte en composant des bandes originales, de la musique simplement instrumentale pour d'autres, ça m'a ouvert la voie. Je me suis senti libéré de la structure. J'avais plus l'obligation d'écrire une chanson avec un couplet, un pont, un refrain, une conclusion. J'avais eu l'occasion merveilleuse d'explorer quelque chose de complètement différent.
Quand vous composez pour le cinéma, la télé ou le théâtre, il n'y a pas de chansons. Vous créez une atmosphère. Et c'était une joie pour moi de ne plus avoir de limites, de créer des atmosphères pour le dialogue. J'avais un vrai sentiment de liberté. Tu as peut-être entendu ça parce que j'en ai parlé à propos de cet album. À quel point une rencontre avec je savais que j'allais perdre son nom. Je te l'ai dit que ça allait m'arriver. Steve McQueen. Voilà, en vieillissant, on a besoin de ce genre d'émotion. Oui, Steve McQueen, je l'adore. Je parle de l'artiste contemporain. J'adore ses créations, ses sculptures, ses films, et depuis des années. J'avais trop envie de le rencontrer depuis longtemps, en tant qu'artiste tous les deux. Parce qu'il m'inspire beaucoup. Un ami commun nous a mis en contact. On s'est rencontrés et c'était délicieux. Un peu bizarre, on ne se connaissait pas, il était timide, j'étais timide. Et la conversation, elle a pris un peu de temps pour décoller. Et puis on a découvert qu'on avait notre anniversaire le même jour, à la même heure exactement, la même année. Né à une heure d'écart en 1969, en octobre, le 10, non, le 9. On a beaucoup parlé. Et comme, quand on s'est rencontrés, j'étais dans une phase où je perdais mon amour pour la musique, eh bien, j'en ai parlé avec lui. Il m'a encouragé à laisser tomber ces structures que j'avais dans la tête. Comment on doit écrire une chanson pour qu'elle fasse partie d'un album. Et puis on sort l'album, et puis on fait une tournée, et puis... Mais pourquoi tu ne penses pas aux choses que tu aimes? Tu aimes la musique, les mots, les images. Parce que je dessine beaucoup, je peins. Il m'a dit, pense à ces trois choses que tu aimes et réfléchis à ce que tu peux faire avec ces trois choses. C'est tout. Ne pense pas à quoi que ce soit d'autre. Ne pense pas à une chanson. Dis-toi, j'aime ces trois choses. Que puis-je fabriquer avec? C'était le point de départ. C'est devenu mon recueil, Orlam. Et je n'ai jamais oublié ces mots à lui. Ils m'ont libéré. Ça m'a rappelé tout ce que j'éprouvais quand j'ai commencé. Quand on commence, vous savez, quand j'ai commencé la guitare, le dessin, le chant, je n'avais pas de limites, car je n'avais pas d'objectif. C'était de la joie pure. J'adorais faire un truc, et quand un copain passait, je lui disais, je peux te jouer une chanson. Rien que de la jouer pour lui, c'était le paradis. J'avais pas d'autre but. Ça m'a rappelé ça, la pure joie de simplement faire et de jouer. Je voulais jouer pour les gens. C'était mon plaisir.
Sleeplessness at the third, a broken.
Un exemple de ces sonorités étranges, hybrides, où le bruit des éléments, du vent notamment, semble se mêler à celui d'instruments dont les sonorités deviennent indéfinissables parce qu'ils ont été transformés par un travail de sculpture sonore élaboré par P.J. Harvey, enfin Polly Harvey, avec ses collaborateurs Flood, John Parrish et Adam Bartlett, alias Cecil. Alors, j'ai demandé à Polly la chose suivante. Je reviens à ce que tu nous disais. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu entreprends quelque chose de nouveau, ton but est comme d'oublier tout ce que tu savais déjà. En fait, d'oublier que tu es une musicienne professionnelle, comme si tu souhaitais redevenir amateur.
Definitely.
Complètement.
I think that is,
c'est ce que je recherche
in life,
dans la vie,
just in the craft of
pas seulement dans mon métier, la musique.
C'est-à-dire
la plupart des choses fondamentales dans la vie sont les plus simples et on les oublie tous les jours. Si tu as eu la chance d'assister à la naissance d'un enfant, comme moi, je l'ai eu après, auprès d'une amie, et moi je me rappelle avoir vu cet enfant arriver parmi nous, sortant du ventre de sa mère, et je me suis dit, Polly, n'oublie jamais ce moment, parce que c'est ça qui est important. Aussi, j'ai eu la chance d'être auprès de quelqu'un au moment de sa mort. Et là encore, ce passage d'un monde à l'autre, ce moment-là, il donne son sens à absolument tout pour moi. Un moment plein d'amour et qui parle d'amour, ce qui est primordial. Et c'est un mot qui ne peut pas en rendre compte, même si on sait tous ce qu'on veut dire quand on parle d'amour. C'est vraiment la chose la plus importante et la plus simple. Ce sentiment enfantin de ressentir une émotion pure, simple, si on pouvait seulement le garder, alors on pourrait tous ensemble faire de notre temps passé ici un moment bien meilleur.
Les mélodies que tu chantes sont très libres, sinueuses. On a l'impression que tu les inventes au fur et à mesure. Est-ce que c'est toi seul qui les trouves dans le processus de fabrication de la musique?
Je suis entré en studio avec les mélodies pour les voix et les grilles d'accords. C'est tout. J'avais les mélodies. Et parfois, on les a un peu transposées. On a changé le ton. Parfois, je me souviens que John, sur I Inside the Old I Dying, était une chanson tellement complexe à terminer, et on n'y est pas arrivé avant le dernier jour, après 5 semaines de studio. On n'y arrivait pas. Et tout le mixage était presque fini.
Qu'est-ce qui manquait alors?
On se rendait bien compte qu'elle ne correspondait pas au paysage musical qu'on voulait. Elle était un peu trop sans surprise. Elle ressemblait à une chanson folk, et c'était pas ce qu'on voulait. On savait que cette chanson portait plus de mystère que ça.
John
s'y est attelé. Il jouait les accords que j'avais écrits, mais il a changé la rythmique. Il a changé la tonalité. Et ça m'a déboussolé. Je savais plus comment la chanter. Je sentais que je ne pouvais plus la chanter comme avant. Alors j'ai fini par la chanter dans la tonalité d'origine, alors que lui en avait changé. Et ça nous a donné exactement ce qu'il nous fallait de mystère pour cette chanson, pour nous transporter dans une dimension qu'on n'avait pas encore trouvée.
Une illustration de ce que Polly Harvey vient d'évoquer, la juxtaposition d'une mélodie sur une tonalité qui n'était pas celle initialement prévue, avec en arrière-plan, vous l'avez entendu, des bruits de la campagne comme des cloches au loin. La chanson s'appelle Eye Inside the Old Eye Dying et l'album de PJ Harvey apparaître s'intitule Eye Inside the Old Eye Dying. Alors, il y a deux choses que je tenais à te dire, Polly, à propos de ce que j'ai ressenti en écoutant cet album. D'abord, c'est qu'on a l'impression que, un peu comme un enfant, tu te chantes à toi-même. C'est très particulier. Et à d'autres moments, c'est peut-être bizarre ce que je dis, on a l'impression que tu donnes une voix aux éléments qui t'entourent dans la nature. Comme si les arbres, les branches, jusqu'aux brindilles étaient en train de nous parler, de nous chanter.
Parfois, la voix la plus émouvante, c'est celle de l'interprète qui n'ambitionne rien, qui laisse les mots le traverser. Ça peut être d'une émotion intense pour l'auditeur. Parce que parfois, on chante en cherchant trop, et tout devient trop apprêté. Il n'y a plus rien d'authentique quand on cherche trop. Flood m'encourageait souvent à ne même pas essayer quoi que ce soit. Il me faisait chanter très calmement, sans me dire où se trouvait le micro. Il m'écoutait souvent chanter pour moi-même, dans la régie, quand je cherchais comment j'allais interpréter les chansons. Et après, il me disait,
Non,
je veux que tu la chantes comme tu l'as fait, là, à l'instant. Alors, je me lançais et il m'interrompait. Non, tu fais comme avant. Il me faisait fermer les yeux, il prenait le micro, je ne voyais pas le micro. Il me faisait chanter comme quand je répétais.
On ne peut pas manquer d'être frappé par le fait que la colère et la violence sont entièrement absentes des chansons de cet album. Mais comment est-ce que tu expliques ça? Il y a peut-être dans le dernier titre, mais on t'a toujours associé à une certaine rage dans ta voix.
Mais là, je cherche un nouvel espace. J'en suis à une autre étape de ma vie. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais une jeune femme, pour mes deux premiers albums, oui, j'étais encore à me débattre avec l'adolescence. J'avais à peine 20 ans quand j'écris ces chansons. On traverse des moments de colère à cet âge-là. On veut trouver qui on est en ce monde. Ces chansons, elles étaient écrites par moi, mais à cet âge-là, aujourd'hui, je suis une femme de 50 ans quand j'écris ces chansons. Je ne peux plus incarner la même chose. Je me sens très différente. C'est pourquoi, petit à petit, au fil des ans, mon paysage sonore, il a changé, effectivement. Let England Shake ou Hope Six exprimaient certainement une contrariété, un mécontentement envers la situation du monde et envers la politique.
Mais le ton de ta voix avait une certaine neutralité, comme si tu retranscrivais des observations à la façon d'une reporter.
Exactement, c'était ça. Juste montrer les choses telles qu'elles sont. Mais ce nouvel album, il est très différent. Il décrit en fait un personnage pour chaque chanson.
Et c'est qui ces personnages? On n'en a pas parlé d'ailleurs.
Ils ont une part d'enfance. Parfois, ils sont comme un esprit, peut-être un esprit prophétique. Parfois, il y a surtout la douleur transmise par les paroles, par exemple dans Prayer at the Gate. Et là, je n'aurais jamais entendu une voix comme ça. Ça me surprend.
Chaque voix est différente de l'autre.
Cette voix, elle est sortie de moi alors que je cherchais quelque chose d'ancestral. Mon sentiment, tu vois les deux derniers vers qui parlent de la nature cyclique, de la vie et de la mort. Voix après, voix avant, la vie et la mort s'entremêlent. Voix avant, voix après, la vie frappe à la porte de la mort. La vie et la mort sont infiniment liées. Et pour moi, cette voix, c'est celle d'un esprit de sagesse. J'ai l'impression d'être une personne très âgée, là. Et la voix, elle le fait entendre. La voix, elle se disjoint de moi par son âge.
Il y a aussi la présence un peu obsédante d'Elvis dans tes chansons. Et de sa chanson bien connue, Love Me Tender. On a l'impression que c'est une obsession, quoi. J'allais te dire que la sexualité n'est pas vraiment présente dans cet album. Cela dit, il y a quand même des allusions, parce que la présence d'Elvis, pour toi, apparemment, c'est extrêmement sexuel.
Ah oui, je dirais qu'il y a beaucoup de désirs sexuels dans cet album.
Mais ce n'est pas aussi évident qu'avant.
C'est plus subtil. C'est beaucoup plus sensuel, je trouve. Donc oui. Il y a l'idée d'attendre un sauveur, une figure christique, qui est un croisement entre Elvis et un guerrier. Wyman, Elvis. Wyman, ça veut dire guerrier. Elvis, c'est presque l'homonyme de All Wise, la sagesse. Et c'est un peu un retour de Let England Shake ou Hope Six. La guerre est toujours parmi nous. Puis il y a ce personnage de femme qui est soldat et qui est aussi marié à Elvis, donc la sagesse. Il y a beaucoup de sens caché là-dedans, pour moi. Il y a aussi mon amour pour Elvis Presley, mon amour pour cette figure de soldat christique, plein de sagesse, que nous découvrons, je dis nous, je veux dire ceux qui écoutent le disque, continuent à implorer pour nous montrer le chemin. C'est une figure de beauté et d'amour et de sexualité.
T'avais une obsession pour Elvis quand t'étais jeune fille?
Oui. Enfant, oui.
James Dean.
Et puis,
yeah.
Bah, yeah. James Dean, Elvis.
But, I mean, you're c'est quand même bizarre, t'as été ado au début des années 80, Elvis était mort depuis pas mal d'années, James Dean, n'en parlons pas. C'est curieux quand même, non, cette fascination pour des figures d'une autre époque. C'est pas de ta génération. Mais pourquoi alors? Qu'est-ce qui t'attirait?
Je sais pas. C'est intéressant. Hein. Je me suis toujours senti décalé. Peut-être que...
Subconscious,
là d'où vient la créativité, ne répond pas vraiment à l'époque dans laquelle je vis. Peut-être. Je me sens proche de... de leur talent artistique, mais aussi du charisme de tout ce qu'ils ont incarné dans leur œuvre. Je ressentais cette beauté, je ressentais ce désir sexuel, jeune fille, devant de tels personnages. Il y avait tout ça, du désir, dans le sens d'en vouloir plus, du désir projeté sur quelqu'un.
C'était plus présent que dans ce qui t'entourait dans cette période.
Seeing beyond what was surrounding you. Yes. Yeah.
You were unhappy with. T'aimais pas la musique qui t'entourait quand t'étais dans les années 80, toutes les stars de l'époque. Qu'est-ce qu'ils avaient qui allaient pas?
Si, j'aimais bien. J'aimais la musique des années 80. À la grande déception de mes parents. Mes parents ont la meilleure collection de disques que tu puisses imaginer. Howling Wolf, Captain Beefheart, tous les disques des Stones, tous les disques de Bowie. Tout ce à quoi tu peux penser, ils l'ont, en vinyle. Et moi, j'étais en rébellion. Je ramenais du Duran Duran. Bon, mais il y avait des trucs bien comme Soft Cell, The Specials. J'aimais bien tout ça. J'avais mon petit monde dans ma chambre où je passais mes disques. Mais je finissais toujours par revenir aux disques de mes parents. As it grows, ask the hedge all it knows. Hail the hedge as it grows, ask the hedge all it knows. Tell me who has lit the toad, what is hidden beneath the road. Tell me quick, 'cause I was born whimpering like a downy horn.
chants d'oiseaux perdus dans une ambiance musicale un peu inquiétante. La chanson s'appelle Charles Question July et elle fait partie du nouvel album apparaître de PJ Harvey, Eye Inside the Old Year Dying. Alors Polly, on parlait tout à l'heure de ta fascination pour des figures charismatiques d'avant ta naissance comme Elvis. Il y en a aussi, dis-tu, qui te terrifiaient comme Captain Beefheart, que tes parents écoutaient chez eux, avec ce saxophone parfois strident et cette voix effrayante. De façon générale, les visions de terreur, comme celles qui sortaient des films d'horreur que tu voyais à la télévision, ou celles aussi qui sortaient de ta lecture de l'Ancien Testament, hein, tu en as parlé, te hantaient, et ces visions d'horreur se sont souvent retrouvées dans ta musique. Et on sent dans tes chansons la peur des choses qui peuvent surgir dans le noir alors que tu dors dans ta chambre, dans une campagne isolée.
Oui, mais je crois que elles étaient nuancées par la beauté aussi. Il y avait ces images, mais aussi beaucoup d'images de beauté en moi. Le cavalier du crépuscule, Love Me Tender, le film, avec ses scènes d'amour, ce personnage de soldat qui meurt, parce que Elvis joue un soldat dans le film, encore un soldat qui revient. Orlam, le recueil qui est le point de départ de mon album Eye Inside the Old Year Dying, avait ses racines autant dans la beauté que dans l'horreur.
Les choses frappantes, c'est dans tes chansons nouvelles, on sent la présence d'une mémoire sensorielle propre à l'enfance. Mais il n'y a pas de souvenir précis d'anecdotes, il n'y a rien de narratif. C'est plus des impressions, il n'y a pas de souvenir concret.
Chez la plupart des artistes, et chez moi certainement, il y a des éléments autobiographiques, car on est tous nourris par ce que l'on sait, ce qu'on a appris, comment on a grandi, où on a grandi. Rien ne pourra nous en séparer, ce sera toujours là. L'autre chose que nous tirons de notre imagination, de notre inspiration, venue de ci, de ça, des choses qu'on voit, qu'on entend, des expositions qu'on visite, c'est qu'on absorbe, je crois, en permanence des éléments qui se mélangent à nos vrais souvenirs, à notre vrai vécu. Ça produit un mélange de notre imaginaire et de notre vécu, un mélange au point qu'on ne sait plus d'où où l'un commence ou l'autre finit. Donc oui, il y a des traces, comme pour tout artiste, des traces autobiographiques dans le travail. Mais pas toujours. Pas seulement. C'est toujours mélangé à l'imagination ou à quelque chose qui nous a grandement marqué dans notre vie.
Tu te prépares à partir pour une tournée européenne. Et j'étais curieux de savoir si tu pouvais nous dire un peu à quoi on pouvait s'attendre en termes de présentation scénique. Est-ce qu'il y a déjà des décors qui sont en train d'être construits? En fait, est-ce que vous avez là pour quelque chose?
Oui, on y travaille en fait en ce moment. Ce sera un groupe réduit. Mon dernier groupe comportait 10 musiciens. Donc, oui, je réduis les effectifs. Parce que l'album lui-même, c'est une ambiance plus intérieure, plus modeste. Ce sera moi et 4 musiciens, Jean-Marc Buti, avec lequel je travaille depuis 1994, Giovanni Ferrario, qui avait joué sur A Woman, A Man Walk By, mon disque avec John Parrish, John Parrish lui-même, bien sûr, et James Johnston, qui faisait partie de mon groupe pour Hope Six, et puis Gallon Drunk. Oui, il est auteur-compositeur lui-même, et il est artiste aussi, il fait de la peinture maintenant. Et puis je vais de nouveau travailler avec Ian Rickson, le metteur en scène de théâtre. Il me dirige sur scène depuis Let England Shake. Il a des idées fantastiques pour la scénographie, les lumières, le décor, la chorégraphie. Il est génial. Et il nous guide dans le rendu du spectacle.
Tu vas refaire beaucoup de chansons anciennes?
Oui.
C'est pas difficile de jouer ces anciennes chansons à présent que tu es passé à quelque chose de complètement différent?
On a choisi les chansons qui nous semblent correspondre à ce nouvel univers. Des chansons qui fonctionnent bien ensemble.
Et tu vas jouer de quels instruments alors sur scène ?
De la guitare,
électrique
et acoustique.
Piano ?
Non, pas de piano. Tourner avec un piano, c'est compliqué. On a trouvé que ce n'était pas une très bonne idée que je sois au clavier. Parce que les autres musiciens sur scène, ils ont déjà des claviers pour lancer des sons numériques. Ça ne semblait pas génial de jouer des parties de vrai piano avec un clavier numérique. Je leur ai donc laissé les claviers. Et je suis à la guitare et au chant.
Alors, je suis curieux, mais la scène va ressembler à quoi ? Tu peux donner des éléments ?
Et je ne veux pas gâcher la surprise.
L'idée, c'est quoi ?
C'est simple. Et c'est beau. Ça tire le meilleur de la lumière et de l'ombre et d'un décor très minimal. C'est clairement inspiré par une ambiance très naturelle, très organique.
Ok.
Une des dernières choses que je voulais te demander, c'est la suivante. On se réveille tous le matin avec une certaine envie, enfin bon, quand on a en soi un peu d'espoir, bien sûr. Et c'est quoi pour toi cette envie avec laquelle tu te réveilles ?
Tous les matins ou juste ce matin ? Petit déjeuner. Mais je vois ce que tu veux dire. Plus sérieusement,
tu parlais justement de cette quantité limitée d'années que tu as devant toi en perspective.
Oui, c'est une bonne façon de voir les choses. J'ai envie, je crois, d'être quelqu'un de bon, en fait. J'ai envie de continuer à aimer et à être aimable pour les gens que je vais croiser pendant la journée. Et c'est quelque chose qu'il faut travailler chaque jour. J'essaie de diriger mon esprit dans ce but, le matin.
Tu entends comme moi des choses extrêmement sombres sur le monde dans lequel on vit. S'il y a une balance pour toi, avec sur un plateau l'espoir et sur l'autre le désespoir, ça penche de quel côté pour toi ?
L'espoir, c'est sûr. Je ne lâcherai jamais l'espoir. Je ne m'y résoudrai jamais. L'espoir et la croyance dans notre capacité à nous aimer les uns les autres. Je ne lâcherai jamais ça. J'y croirai toujours comme une alternative dans ma vie.
C'est une bonne conclusion.
Absence. Cold moon comes down, curdling through reddening leaves that are falling. just a girly girl, just a bogus boy. Treat the fields of bees onto a jammer of not sleeping. Go home now, love. Go home now, love. Leave your
C'est par ces chants d'oiseaux lointains et ce bourdonnement d'insectes que s'achève l'ultime chanson de l'album à paraître le 7 juillet prochain de PJ Harvey, Eye Inside the Old Year Dying. Et ce titre qu'on vient d'entendre s'appelait A Noiseless Noise, un bruit sans bruit. C'est plutôt pas mal trouvé. Il me reste donc à vous rappeler que PJ Harvey donnera deux concerts à l'Olympia à Paris les 12 et 13 octobre prochains. Je ne vous apprendrai rien. Oui, voilà, c'est ce que me dit Stéphane, mais je vous le confirme qu'ils sont hélas déjà complets, c'est ce que j'allais dire. Et il me reste également à vous dire que voilà, c'est la dernière émission que je fais dans un studio pour cette saison, puisque voilà, demain, je serai aux Eurockéennes de Belfort. Il nous reste un peu de temps, et je voudrais justement qu'on écoute encore PJ Harvey. C'est un très beau titre qu'elle a enregistré en 2018 pour les besoins d'un film. Elle a travaillé avec un compositeur qui s'appelle Harry Ask. Et c'est une chanson traditionnelle, folklorique, qu'on trouve sur les îles britanniques sous différentes versions. Je crois qu'en Irlande, c'est St. Patrick's Day, mais je voudrais pas dire une bêtise. Elle s'appelle An Acre of Land, et elle l'a enregistrée en 2018. Elle a fait une version très personnelle et vraiment très belle, qui collait à peu près, plutôt bien d'ailleurs, à ce qu'on a fait, ce qu'on a entendu aujourd'hui.
My father left me an acre of land. Sing ivy, my father left me an acre of land. Sing holly, go whistle and ivy. I ploughed it with a ram's horn. Sing ivy, and sowed it all over with one peppercorn. Sing holly, go whistle and ivy. Sing. Sing holly.
sing Holly. Go whistle and ivy, 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 sing.
Big Guns Called Me Back Again, un titre de 2010 signé PJ Harvey. On peut le trouver dans une excellente compilation qui s'appelle B-Sides, Demos and Rarities, qui est parue très récemment. Il y a une cinquantaine de titres, c'est absolument captivant parce que PJ Harvey ne cesse de publier tous ses enregistrements à la maison, ses maquettes, ses esquisses, c'est souvent captivant. Voilà, cette fois, si c'est bien fini, je serai demain soir en direct des Eurockéennes de Belfort. Il y aura la retransmission d'un concert de Wet Leg, puis il y aura aussi quelques autres surprises. Il me reste à remercier extrêmement, très chaleureusement Harold Manning pour l'interprétation en direct. C'était pas simple. Merci beaucoup, Harold. Stéphane Ronxin à la réalisation. Bien sûr, c'était Mathias Alléon à la technique, et je remercie également Romain Couturier et François Merlin à la discothèque de Radio France.